La fin du pèlerinage de Téné, plusieurs centaines de personnes se sont retrouvées tout ce week-end à Bourail, et les pèlerins qui ont assisté ce matin à la grand-messe célébrée par l'archevêque de Nouméa. Le 14 juin, c'est la journée mondiale du don du sang. À cette occasion, l'association des donneurs de sang de Nouvelle-Calédonie a relancé l'opération « La goutte de sang géante ». Les États-Unis signeront un accord de paix dans les toutes prochaines heures, annonce de Donald Trump ce matin. Le régime des Mollahs ne semble pas aussi catégorique que le président américain. Le sommet du G7 se prépare à Évian-les-Bains, mais aussi à Genève, où arriveront les chefs d'État et de gouvernement. Les commerçants de la capitale suisse craignent des débordements en marge de manifestations contre le sommet. Le sport et le football avec la Coupe du Monde. Dans la matinée, le Brésil et le Maroc ont fait match nul, un but partout. À l'instant, le coup d'envoi de la rencontre entre l'Écosse et Haïti. Le Racing 92 qualifié pour les demi-finales du Top 14. Ce matin, les franciliens sont allés l'emporter 33-31 sur la pelouse de la section paloise. Le Racing rencontrera le Stade Toulousain dans le dernier carré. Et puis en Calédonie, une épreuve dans des conditions épiques ce dimanche. Le 15e Trail des Cagous à Bouloupari. Les plus aguerris se sont lancés pour un parcours de 47 km. Bonjour, excellent dimanche, soyez les bienvenus dans ce journal. À la une, ce midi encore, l'actualité religieuse. Le pèlerinage de Téné s'est donc achevé en fin de matinée. Tout au long de ce week-end, plusieurs centaines de pèlerins se sont retrouvés à Bourail. Un pèlerinage qui s'est achevé donc avec la grand-messe célébrée par l'archevêque de Nouméa. Reportage à Bourail de Kélinda Boicou.
Moment de ferveur ce matin à Téné. Les fidèles étaient nombreux pour la messe de clôture du 39e pèlerinage de Téné, placé sous le thème de « Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu », une célébration qui clôture le rassemblement de la jeunesse chrétienne et le pèlerinage qui a eu lieu hier. C'est plus d'un millier de fidèles venant du sud au nord de la Calédonie qui ont fait le déplacement et sont restés sur le site pour assister à cette messe.
J'ai retenu de cette messe que c'est le 21, le dimanche qui arrive, c'est l'ouverture du jubilé, c'est-à-dire on va vivre une année, les 60 ans du diocèse, et qui se terminera ici l'année prochaine pendant le temps de clôture du pèlerinage, qui va aussi fêter ses 40 ans. Ça représente un temps fort pour nos jeunes, puisqu'il est dit qu'il y a un grand champ à moissonner, il y a peu d'ouvriers. Donc nos jeunes se sont levés avec l'accompagnement des prêtres, mais aussi tous ceux qui ont encadré, de se porter, laisser la maison, les familles, venir vivre un temps ici où il fait très froid et aussi un peu de pluie depuis hier, et vraiment consacrer leur vie, ces jeunes. Mais merci à tous les accompagnateurs, tout ce qui était là pour que nos jeunes vivent à fond leur foi, parce qu'ils seront témoins à leur tour. C'est eux, les adultes de demain, qui vont faire que la foi chrétienne va se poursuivre, va vivre dans le temps.
On vient de l'île des Pins, on est venu hier soir. Régulièrement, je viens ici à Téné, puis je viens pour prier avec les responsables, les groupes de jeunes.
C'est une famille très, très croyante et pratiquante. On s'est dit qu'il fallait qu'on soit là. Et franchement, que de la joie. De la joie, de l'amour, de la fraternité. On repart le cœur, l'esprit plein de beaux souvenirs, de beaux témoignages. Une belle jeunesse calédonienne fervente.
Pour Mgr Sione Poé, archevêque de Nouméa, cette célébration revêt une importance particulière à la veille du 40e rassemblement de Téné prévu l'an prochain, et notamment l'annonce du lancement dimanche prochain de l'année jubilaire des 60 ans de l'archidiocèse de Nouméa.
Tout s'enchaîne, donc on se prépare pour vivre une année spéciale où le diocèse est appelé à rendre grâce au Seigneur pour les 60 ans de mission, de sacrifice, et aussi un temps de renouveler notre engagement pour que l'Église puisse être renouvelée et s'engager dans cette mission appelée à être une Église participative, missionnaire, fraternelle. Donc c'est le message que ça a été partagé et vécu par les jeunes. L'amour de rien ne nous séparera de l'amour de Dieu.
Est-ce que l'on a déjà le thème de l'année prochaine? Ce sera dans le cadre
du... Le thème qui a été choisi pour l'année jubilaire, c'est « Fidèle à la mémoire, ouvert à l'avenir ». Pour l'instant, on reste sur ce thème de l'année jubilaire. Et puis, on discutera le moment voulu pour annoncer s'il y a un thème pastoral ou on s'engage pour vivre le thème du jubilé.
Le comité Marche pour Notre-Dame de Téné a donné rendez-vous aux pèlerins l'an prochain pour le 40e pèlerinage de Téné et pour la clôture de l'année jubilaire des 60 ans de l'archidiocèse de Nouméa. Du site de Téné à Bouraï, Kelinda Bouakou, Radio Rythme Bleu.
Merci Kelinda et on vous retrouvera dans notre journal de 17h45 ce soir. Venons-en à présent à l'opération La Goutte de Sang Géante qui faisait son retour à Nouméa aujourd'hui. Rendez-vous mis en place ce 14 juin à l'occasion, Michael Juneski, de la journée mondiale du don du sang.
Près de 200 personnes étaient réunies sur le terrain de l'amicale vietnamienne Atina avec des tricots rouges pour former l'image d'une goutte de sang géante prise par photo aérienne à l'aide d'un drone. La mauvaise météo et les gouttes justement n'ont pas découragé ceux qui voulaient faire partie de la grande goutte, avant tout pour la bonne cause.
Le don du sang peut sauver une vie comme on dit, donc pour motiver les gens à faire ce don. Parce que quand on a des personnes malades autour de nous, ben on est bien content de pouvoir les aider si on peut. Donc c'est vraiment par solidarité pour les gens bien portants, mais comme pour les malades aussi.
Je me dis, c'est l'occasion aussi de pouvoir aider à promouvoir cette chose-là qui est mine de rien est nécessaire pour beaucoup de personnes. C'est un beau geste à faire et à soutenir.
Ça permet justement d'aider les personnes qui sont accidentées, qui ont de graves maladies. Donc c'est vrai que maintenant, on donne régulièrement tous les deux mois pour aider tout le monde. Et puis même si ça nous arrive, ne serait-ce qu'on en a pris conscience.
Ça permet justement de mettre notre petit grain de sel à l'association pour aider le plus grand nombre de monde à être bien. Et puis si ça peut permettre de sauver quelqu'un, tant qu'à faire.
En plus, on a un groupe sanguin qui est très demandé, le groupe O. Donc on nous sollicite régulièrement en urgence pour aller donner notre sang.
Mais c'est un plaisir de voir tout le monde qui sont quand même solidaires pour la goutte de sang.
Moi déjà, je suis rentré dans l'association des donneurs de sang de Nouvelle-Calédonie dans un cadre de projet scolaire. Ça m'a permis de franchir le pas parce que j'étais déjà intéressé par cette association. Et du coup, aujourd'hui, on vient participer à la journée des gouttes de sang géante et important.
Ce n'était pas la foule des grands jours, étant donné la météo, mais pour les organisateurs, l'essentiel était de remettre au goût du jour un événement qui n'avait plus été mis en place depuis 2019, en raison des différentes crises qui ont touché la Nouvelle-Calédonie. Lilian Morer est le président de l'Association des donneurs de sang de Nouvelle-Calédonie.
L'essentiel, c'est que le message est passé, voilà, la mobilisation. Alors, la météo n'est pas favorable, mais il y a quand même plus de 200 personnes qui sont mobilisées. Et on est ravis déjà de renouveler cet événement. C'est le 14 juin pour nous, c'est la date anniversaire annuelle mondiale là, sur le don du sang. On va organiser ça un peu mieux l'année prochaine et on prendra rendez-vous avec Dame Nature là, pour que ce soit quand même plus sympathique.
Le record de participation n'a donc pas été battu. Il était de 1124 participants en 2012. L'association souhaitait surtout relancer cette action pour rappeler aussi qu'en Calédonie, les services sanitaires se retrouvent régulièrement en manque de stock de sang pour répondre à des urgences telles que des maladies graves ou des accidents. Les donneurs de sang espèrent déjà réorganiser ce rendez-vous l'année prochaine.
Au chapitre des faits divers, la police nationale a procédé dans la nuit de vendredi à samedi à l'interpellation d'un conducteur qui faisait du rodéo urbain dans le quartier de Ducos.
Un phénomène qui était devenu de plus en plus répandu ces derniers mois. À Ducos, devenu terrain de jeu pour certains fans de cette pratique, alors que des logements se trouvent dans ce quartier nouméen, avec les désagréments qu'on connaît pour la population. Sans oublier le danger que représente la pratique de dérapages incontrôlés sur la voie publique, sans cadre réglementaire, autant pour les personnes à bord des véhicules que pour ceux qui se trouveraient aux alentours. Les forces de l'ordre ont donc sévi en arrêtant le conducteur impliqué vendredi vers 22h. Il était par ailleurs sous l'emprise de l'alcool dans son action de gymkhana. Il sera convoqué ultérieurement devant le tribunal. On retiendra surtout qu'après cette action, son véhicule a tout simplement été confisqué pour être placé à la fourrière.
Il est midi et 10 minutes. On va marquer une première pause dans ce journal. Vous restez avec nous à suivre l'actualité en métropole et dans le monde.
Mazda, des véhicules à découvrir. Mazda, un monde d'élégance, de raffinement et de performance. Mazda Citadine, Mazda SUV et compact SUV, ainsi que le nouveau pick-up Mazda, des véhicules et des offres exceptionnelles sur toute la gamme. À visiter dès à présent en concession au showroom Mazda, situé 174 rue Auguste Bénébigue, Magenta. Mazda vous souhaite une bonne route.
En Nouvelle-Calédonie, les entreprises qui avancent passent à la vitesse supérieure. Stop au logiciel dépassé, place à l'efficacité. Avec SoBlue, pilotez tout, simplement. Devis, factures, stocks, logistique et bien plus encore. SoBlue, c'est un logiciel nouvelle génération. Simple, modulaire, accessible partout. Faites des économies, gagnez en efficacité. Passez à SoBlue. Demandez votre démo sur soblue.nc.
Toute l'info en trois lettres, RRB. L'actualité nationale et internationale, c'est la suite d'Info Weekend. On retrouve Lionel Sabot.
Donald Trump l'annonce, il le redit, l'Iran et les États-Unis signeront un accord de paix dans les toutes prochaines heures. Pas de doute pour le président américain, les deux parties sont parvenues à un compromis. Le document soumis aux deux pays ne devrait pas cependant résoudre tous les différends entre les États-Unis et l'Iran. Donald Trump confiant donc, même si Téhéran balaie encore cette hypothèse de la signature d'un accord imminente. L'annonce d'un probable accord de paix entre Américains et Iraniens résonne évidemment dans toute la région, dans tout le Moyen-Orient. En Israël, on accueille cet accord avec méfiance, mais aussi inquiétude. Frédéric Simon pour Europe 1.
Benjamin Netanyahu avait été maintenu dans l'ignorance des pourparlers qui ont abouti à la probable signature d'un protocole d'accord entre Américains et Iraniens. Une tendance qui se confirme, puisqu'à l'occasion du sommet du G7 en France, Donald Trump a convoqué pour mardi les représentants de trois pays arabes plus ou moins directement concernés, le Qatar, les Émirats Arabes Unis et l'Égypte, mais aucun représentant de l'État hébreu n'a été convié. En outre, l'incertitude règne sur le sort du programme nucléaire iranien. Donald Trump a assuré que la question sera réglée d'une manière décisive et que les négociations allaient permettre la destruction des stocks d'uranium enrichi à 60%, mais les Israéliens redoutent que l'Iran fasse ralentir les pourparlers et que le président américain finisse par se désintéresser du dossier. Autre crainte en Israël, le lien imposé par le régime des Mollahs entre un éventuel accord de paix et la situation au Liban, où son allié le Hezbollah représente encore une menace pour Israël. L'accord pourrait limiter la liberté de manœuvre de l'armée israélienne au Liban. Enfin, les dirigeants israéliens redoutent une levée, même partielle, des sanctions économiques qui pèsent sur l'Iran, ainsi que le dégel des avoirs de la République islamique à l'étranger, des développements qui risquerait de renforcer le régime et de lui permettre d'augmenter le financement des milices pro-iraniennes dans la région, au Liban, mais aussi en Irak et au Yémen.
Frédéric Simon, le correspondant d'Europe 1 en Israël. Frédéric Simon qui évoquait il y a un instant le G7 qui se tiendra à Évian-les-Bains, sommet qui provoque la crainte des habitants de Genève. C'est en effet depuis la capitale suisse qu'arriveront les chefs d'État et de gouvernement qui prendront part à ce sommet. Et la ville se barricade. La manifestation anti-G7 prévue demain inquiète évidemment les commerçants du centre-ville qui craignent encore des débordements. Tous ont en mémoire en fait les scènes de chaos de 2023. Évian accueillait déjà le G7 et des dizaines de magasins avaient été pillés à Genève. Noémie Loisel pour Europe 1.
Dans le centre-ville, des palissades recouvrent les vitrines des grandes enseignes de luxe, des hôtels, des bâtiments publics et culturels, mais aussi des petits commerces. Dimitri est responsable adjoint d'une enseigne de vin.
En 2003, en marge du sommet, il y avait eu des altercations, des vitrines cassées, des pillages. On est 20 ans plus tard, on estime qu'il peut se passer peut-être les mêmes choses, voire de manière plus grave. On n'a pas envie d'avoir des milliers de francs de réparation par la suite. On se protège comme on peut, on serre les dents et on espère que ça va bien se passer.
Une facture salée pour se protéger. 25 mètres carrés de panneaux de bois coûtent environ 4000 francs suisses. Un investissement que tous les commerçants ne peuvent pas assumer, comme ce restaurateur, inquiet et situé sur le parcours de la manifestation.
C'est des dizaines de milliers de francs. Au niveau des conséquences économiques, on ne parle pas de l'après en fait. On pense que voilà, on casse une fenêtre et le lendemain on peut la réparer. Mais nous on sait ce que ça représente. On sait que s'il y a des dégradations, il y aura facilement 1 à 2 mois d'attente pour la production et la pose de la vitre. Donc ça veut dire qu'on a un commerce qui est délabré pendant 2-3 mois. C'est très douloureux pour une petite entreprise qui essaie de se développer.
En 2003, le montant des dégâts avaient été évalués entre 5 et 6 millions de francs suisses. Genève, Noémie Loisel, Europe 1.
Les Suisses qui se prononceront demain lors d'un référendum inédit, ils devront trancher sur un potentiel plafonnement de la population. L'objectif est de limiter le nombre d'habitants dans le pays à 10 millions d'habitants d'ici 2050. Le texte prévoit que si la population suisse dépasse les 9,5 millions d'habitants avant 2050, le gouvernement devra agir notamment sur l'asile et le regroupement familial. D'après les sondages, le résultat du scrutin devrait être très serré, même si la dynamique semble en faveur du non à ce plafonnement. Et puis en marge de la préparation du G7, la mort tragique d'un motard de la gendarmerie nationale, c'était la nuit dernière dans les Alpes. Il a été percuté sur une route de Haute-Savoie par un véhicule venant à contresens. Le militaire de 38 ans participait aux missions de sécurisation du sommet. En métropole encore, de nouvelles plaintes ont été déposées à l'encontre de Patrick Bruel, l'une pour tentative de viol en 2007, l'autre pour viol en 2012. Le chanteur a été, pour rappel, mis en examen cette semaine dans 4 affaires similaires et il a été placé sous contrôle judiciaire. Et puis le démantèlement d'un réseau de vente d'armes un peu particulière à Pau, dans le Béarn. Les arrestations ont eu lieu jeudi dernier. 4 hommes ont été mis en examen. Ils sont soupçonnés d'avoir fabriqué des pistolets à l'aide d'imprimantes en 3D. Antoine Biavaud pour Europe 1.
Les policiers ont découvert un atelier clandestin où étaient fabriquées des armes létales, notamment des pistolets de type Glock, à l'aide donc de cette fameuse imprimante 3D. Le procédé est simple et de plus en plus fréquent. Recréer à l'aide de cette technologie une arme en plastique, mais tout à fait capable de tirer des coups de feu. Ces armes sont ensuite revendues entre 1 000 et 1 500 euros sur Internet, de manière bien sûr illégale. Un phénomène inquiétant, d'autant que ces armes peuvent s'avérer très dangereuses, comme l'explique Christian Goblas, expert en balistique.
Techniquement, c'est facile à faire maintenant. Il faut se méfier parce qu'une imprimante 3D de mauvaise qualité va faire un pistolet de mauvaise qualité. Pour avoir un pistolet qui tient le coup à la longue et sur lequel on peut tirer plusieurs coups, il faut compter des imprimantes de 200 000 euros à peu près. On peut tirer avec une imprimante 3D de qualité moyenne, on peut tuer, mais maintenant ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a de forts risques d'explosion lorsque l'on va tirer. Il y a autant de risques en fait pour la personne en face que pour le tireur.
Et ce sont donc ces armes que les 4 hommes âgés de 17 à 21 ans mis en examen semblaient commercialiser. Selon les enquêteurs, le montant de leurs bénéfices n'a pas encore pu être établi.
Antoine Biavaud du service police-justice d'Europe 1. Il est midi 17. On marque une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, toute l'actualité sportive.
Élection provinciale 2026. La ville de Païta a informé les électeurs que le retrait des cartes électorales se fait en mairie du 10 au 19 juin uniquement. Du lundi au jeudi, de 7h30 à 15h30 et le vendredi jusqu'à 14h30. Pièce d'identité obligatoire, vérifiez votre situation sur électeur-nc.fr.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059. Tout le sport, en trois lettres, RRB.
La suite d'Info Weekend, on retrouve Lionel Sabon.
Le sport, c'est tout d'abord la Coupe du Monde de football.
Les pages spéciales Coupe du Monde de football avec Azure Piscine et Outdoor. Un salon de jardin à l'ombre d'une pergola pour le coup d'envoi, une piscine pour se rafraîchir à la mi-temps et un canapé compressé confortable jusqu'au tir au but. Tout est chez Azure Piscine et Outdoor.
Et il y avait une première grande confrontation dans ce mondial ce dimanche. Dans le groupe C, le Brésil affrontait le Maroc et la rencontre s'est terminée sur un nul, Mickaël.
Un but partout, deux formations qui se sont neutralisées. La Seleção brésilienne, avec désormais Carlo Ancelotti à sa tête face à la sélection du Maroc, qui avait créé la surprise au mondial de 2022 en se hissant en demi-finale pour s'incliner face à la France. Premier grand choc donc dans ce mondial de poids lourd et sans vainqueur, les Lions de l'Atlas ont trouvé la faille à la 21e minute de jeu grâce à un but d'Ismaël Saïbari. Mais le Brésil a très vite égalisé par l'intermédiaire de Vinicius Junior à la 32e minute de jeu. Les choses en sont restées là jusqu'au bout de la rencontre avec deux équipes ambitieuses. Chacune a tenté de reprendre l'avantage dans le jeu sans succès. Les quintuples champions du monde brésiliens se sont heurtés à de valeureux Marocains tout aussi entreprenants. Pas de gagnant donc dans la première grande rencontre de ce mondial. Dans cette même poule d'ailleurs, Haïti fait face à l'Écosse en ce moment même. Le coup d'envoi a été donné à midi. Les Écossais qui pourraient tout de suite prendre un bon avantage dans ce groupe en cas de victoire. Le score est toujours de 0 à 0 après 13 minutes de jeu. Encore des résultats aujourd'hui. Le Qatar et la Suisse dans le groupe B ont fait également match nul, un but partout. La sélection du Qatar a réussi à égaliser dans les arrêts de jeu alors que les Suisses avaient ouvert le score sur pénalty grâce à Mbolo, l'attaquant du Stade Rennais en début de rencontre. Un groupe dans lequel le Canada et la Bosnie avaient déjà fait match nul hier, encore une fois, un but partout. Allez, une autre affiche au programme cet après-midi à 10h15. La sélection australienne affrontera la Turquie. Ça, ce sera pour le compte du groupe D. En tout cas, notez que sur les 6 premiers matchs de cette Coupe du Monde, on a déjà enregistré 3 matchs nuls, c'est-à-dire des groupes pour lesquels on sait déjà que la qualification en 16e sera compliquée à aller chercher pour les sélections qui veulent poursuivre l'aventure.
On a déjà des enseignements à tirer au 3e jour de compétition et une question, l'équipe de France évitera-t-elle un match piège pour son entrée en lice?
Ouais, le début du mondial pour les Bleus, ce sera, on le rappelle, mercredi matin face au Sénégal dans le groupe I. Les Bleus, basés à Boston, préparent cette rencontre pour Manu Koné, milieu de terrain des tricolores, qui jouera d'ailleurs son premier mondial. L'important sera de décrocher une première victoire de référence.
Première entrée dans cette compétition, il faut gagner le premier match, quoi qu'il arrive. Après, par rapport au Sénégal, on sait que c'est une très très bonne équipe. Ils sont champions d'Afrique, donc on sait qu'on s'attend à un match compliqué. Mais voilà, on a confiance en nos qualités. On travaille sur nous-mêmes, on bosse à l'entraînement jour par jour et on va se tenir prêt pour le match.
France-Sénégal, premier match des Bleus à suivre mercredi matin sur la pelouse de New York. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 6h pour nous.
Avec Azure Piscine, vos invités peuvent célébrer les buts en plongeant ou se rafraîchir à la mi-temps. Et pour l'ambiance, nos salons de jardin, pergolas, barbecue et canapés transforment votre terrasse en loge présidentielle. Azure Piscine et Outdoor, deux magasins, Magenta et Païta, 46 42 42.
Allez, on passe au rugby avec le premier barrage de qualification pour les demi-finales du Top 14. Ce matin, la section paloise recevait le Racing 92.
Vibrez au rythme du rugby avec Société Générale, partenaire majeur du Top 14. À vos côtés sur le terrain comme dans la vie.
Et match très serré, très engagé entre des Palois qui avaient terminé la phase régulière du championnat à la 4e place et le Racing qui avait de son côté pris la 5e place du classement à l'issue de la dernière journée de championnat. Le Racing 92 qui a créé l'exploit ce matin en allant s'imposer 33-31 sur la pelouse du stade du Hameau. Un exploit car la section paloise était jusqu'à ce matin invaincue sur ses terres. C'est donc le Racing qui rencontrera samedi prochain le Stade Toulousain, ce sera au Stade Vélodrome en demi-finale du Top 14. Patrice Colazo est l'entraîneur du Racing 92.
Déjà le Vélodrome c'est la classe quoi. Donc, et puis Toulouse c'est la classe aussi. Donc on sera là puis on mettra nos plus beaux costumes. C'est un peu les montagnes russes dans les émotions. Mais on est capable de faire des trucs incroyables. Ils sont capables de faire des trucs incroyables. Le tout c'est qu'ils y croient. Voilà, et ils y ont cru.
À Toulouse, Racing 92, demi-finale du Top 14, ce sera à suivre samedi prochain. On connaîtra l'affiche de la seconde demi-finale demain matin à l'issue du second barrage de qualification. Le Stade français, troisième de la saison régulière, recevra le Stade Rochelet qui avait pris le week-end dernier, vous en souvenez, la dernière place qualificative pour ces barrages. Le vainqueur de cette rencontre qui débutera demain à 6h05 heure de Nouméa affrontera la semaine prochaine Montpellier, enjeu bien évident. Évidemment, une place en finale au Stade de France pour tenter d'aller soulever le bout de bois, le très convoité bouclier de Brennus. On ouvre à présent, si vous le voulez bien, une page sport automobile et on commence avec la Formule 1. On dispute ce week-end la 7e manche du championnat du monde.
Vos stations Shell et Pacific, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
Pilotes et écuries sont en Catalogne ce week-end pour le Grand Prix de Barcelone. La nuit dernière s'est déroulée la séance de qualification et encore une fois cette année, c'est une Mercedes qui a signé la pole position. Après 4 poles consécutives signées Kimi Antonelli, c'est cette fois-ci George Russell qui a tourné plus vite que tout le monde. George Russell qui, ce soir, au moment du départ de ce Grand Prix, aura à ses côtés sur la première ligne la Ferrari de Lewis Hamilton qui manque la pole pour 63 millièmes de seconde. Lewis Hamilton, heureux comme s'il avait pris part à sa première séance de qualification.
Oh, it's huge.
Oh, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Je me suis surpris tout seul. J'étais pas à présent en FP1, en FP2, j'étais pas dans le coup, à plus d'une seconde. Je me disais que ça allait aller en FP3, et puis en FP3, j'étais encore à une demi-seconde. J'étais anxieux avant les qualifications. Je devais essayer de me rapprocher. Je le voyais sur les datas, mais avoir la confiance de le faire à l'intérieur de la voiture, c'est autre chose. Et finalement, ça a été un vrai challenge. L'équipe a fait un travail remarquable. Les changements de réglage ont été les bons. Ce sont nos meilleures qualifications. Nous avons des améliorations ce week-end pour lesquelles je suis très reconnaissant à l'ensemble de l'équipe. L'équipe qui a poussé fort.
Russell Hamilton en première ligne. On trouvera ensuite sur la deuxième ligne le leader du championnat du monde, Kimi Antonelli, et la McLaren du champion du monde en titre, Lando Norris.
Les Red Bull de Max Verstappen et d'Isaac Hadjar occuperont la troisième ligne. Si Lewis Hamilton sera en première ligne, son coéquipier, Charles Leclerc, partira lui depuis la cinquième ligne en dixième position. Le Monégasque a fini dans un mur lors de la Q3. Les problèmes s'accumulent pour Leclerc, qui est dans le dur depuis 3 Grands Prix. Et puis un mot de Pierre Gasly et d'Esteban Ocon. Le premier a signé le 14e temps de ses qualifs au volant de son Alpine. Le second n'a pu faire mieux que le 17e temps au volant de sa Haas. Le Grand Prix de Barcelone, ce sera à suivre ce soir pour nous. Départ de la course à minuit, heure de Nouméa.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1, parrainée par Shell et Pacifique.
Shell, un nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2026. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Le sport auto ce week-end, c'est aussi les 24 heures du Mans sur le mythique tracé de la Sarthe. On est presque à la mi-course et pour le moment, même si c'est extrêmement serré, qu'il y a actuellement un drapeau jaune qui a rapproché toutes les voitures, pour le moment dans la catégorie hypercar, la catégorie reine, ce sont deux Cadillac qui sont en tête, la Cadillac numéro 38 et la Cadillac numéro 12, suit la BMW numéro 20. Voilà ces trois voitures qui sont au coude à coude et qui bien sont à moins de quelques secondes d'écart les unes des autres. Mais la course est encore longue pour tout le monde, les 24 heures du Mans qui s'achèveront dans la nuit pour nous. On va passer au cyclisme, Michael Juneski, avec Paul Sexas qui continue à faire parler de lui. Le jeune Français a livré un joli numéro sur l'avant-dernière étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes.
Oui, la victoire est revenue au Mexicain Isaac Del Toro, tandis que Paul Sexas a limité la casse après une lourde chute largement retardée. Et le tricolore a tout de même réussi à revenir à la 7e place en rebouchant un écart de 4 minutes sur le peloton. Il revient sur sa chute et surtout sur la solidarité de sa formation Décathlon CMA-CGM.
C'est une erreur de ma part. Voilà, j'ai aucune excuse. Dans un virage, je suis arrivé trop vite. J'ai pris trop de risques. J'ai mal jugé un virage et j'ai fait un vol plané sur le goudron. Je me suis retrouvé à glisser sur les mains. Pendant un moment, j'ai pas cru que j'allais repartir. J'avais une équipe soudée autour de moi. Je suis reparti 3-4 minutes derrière. Ils m'ont attendu. C'est 5 mecs qui sont sacrifiés tous les uns après les autres pour moi, alors qu'ils auraient pu me laisser dans la pampa et je ne me serais pas plaint parce que c'était tout ce que je méritais. Aujourd'hui, juste chapeau à eux et ils peuvent savoir que je les aime tous.
Et après cette folle journée, Paul Sexas a été désigné logiquement combatif du jour. L'Australien Luke Tuckwell a conservé son maillot jaune à la veille de l'arrivée. Paul Sexas est 6e du classement général.
Et puisqu'on parle de Pampa, venons-en au sport en Calédonie avec ce dimanche le Trail des Cagous qui est en cours.
La 15e édition, une épreuve qui se déroule dans des conditions épiques à Bouloupari. Les plus aguerris se sont élancés sur le parcours SFAC de 47 km dans la pluie, la boue pour ajouter de la difficulté. Seuls les 9 premiers concurrents viennent de franchir la ligne d'arrivée. Gabriel Espada, vainqueur en 4h27 et 7 secondes, devant Antoine Barguin qui a bouclé la course en 4h38 et 21 secondes. Ludovic Lancelot s'est classé 3e, Leslie Nowicki a terminé 6e et première féminine juste sous la barre des 5 heures de course. Il y avait bien entendu des courses intermédiaires pour ceux qui voulaient tout simplement profiter d'une belle aventure. Les participants ont souvent apprécié.
Du coup, j'ai fait le 12,5 km. Je fais pas souvent des trails et franchement c'était génial, le parcours était super beau, c'était assez vallonné. Voilà, je suis trop contente de ce petit parcours, c'était vraiment top.
Ça s'est bien passé, voilà, à mon rythme, en marchant dans les montées. Ça s'est bien passé.
Moi j'ai fait le 24 et ça s'est très bien passé, les paysages étaient top. Il y a juste le début, la première montée, j'ai souffert et après j'étais lancé. C'est très beau, ouais.
C'était vraiment bien.
Bah, j'ai trouvé ça sympa parce que bah, ça nous a un peu sortir et il y avait de beaux paysages et c'est voilà.
Moi je fais l'UNSS Rando et elle aussi elle fait des trails.
Intense un peu mais sinon c'était bien.
Un des propos recueillis par Charlotte Coulson. Notez que sur le 24 km terre de running, c'est Julien Bernès qui s'est imposé comme Johanna Draghici chez les féminines. Sur le 12 km la Cabosse d'Or, c'est Timéo Bovi qui l'a emporté.
C'était hier le coup d'envoi de la saison des courses hippiques. Un premier rendez-vous de l'année sur l'hippodrome Banu à la fois.
Et notamment la Foy classique, distance 1300 mètres, victoire d'Harry Potter, le cheval de Christian Kauma qui a devancé Billy of Rose de Nadir Boufnesh et The Star de Steven Adam de Villiers. Une belle journée riche en enseignements, nous a dit le président de la Fédération des courses hippiques, Nicolas Schneider.
On a pu voir effectivement de beaux chevaux sur l'hippodrome, les socioprofessionnels effectivement impliqués avec toujours autant de passion et puis le public qui s'était déplacé. Tout ça, ça a fait un très bon cocktail et il y avait tous les ingrédients pour faire une belle journée de reprise pour cette saison hippique 2026. La Foy classique, c'était l'épreuve attendue puisqu'on retrouve beaucoup des protagonistes qu'on retrouvera forcément au départ de la Casino Coupe Clark du centenaire dans quelques mois. Une distance plus de vitesse, un 1300 mètres, alors c'est un sprint un peu plus long qui permet de regrouper des chevaux rapides et des chevaux plus de tenue. On a un cheval qui s'illustre À chaque fois, dans ce type de conditions, un cheval passe partout. C'est Harry Potter qui l'emporte cette année. Il avait échoué l'année dernière à la seconde place. Cette année, il prend sa revanche et remporte brillamment cette La Foix Classique 2026. Sur son dos, on retrouve Anthony Karamanolis, qui cumule 4 victoires sur cette réunion d'ouverture, où on a vu briller notamment l'écurie de Watom, entraînée par Christian Kauma, qui a resté effectivement 4 victoires sur les 6 courses proposées au programme de course en ligne.
Et la prochaine date pour les courses hippiques, ce sera le 27 juin à Boulou Paris.
Et vous connaissant, Mickaël, je suppose que vous avez encore quelques résultats sous le coude.
Hein. Du football, la 11e journée de Super League laisse l'Ossic qui l'a emporté sur le CA Saint-Louis 2-1. Gaïcha et Cougny se sont quittés sur un nul, un but partout. Magenta l'a emporté sur le Mondor 4-0 pour reprendre la tête du classement. Tiga Sport l'a emporté sur Horizon Sport 3-2. Et en basket 3-3, la National League du Pacifique moins de 23 ans continue à la salle Omnisport de Lanzvata. Aujourd'hui, c'est jour de repos pour les sélections. La compétition reprend demain. Pour le moment, la sélection des Tonga chez les garçons comme chez les filles domine en restant invaincue depuis le début des tournois.
Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce journal. Il est midi et 32 minutes. Journal qui sera disponible d'ici quelques minutes en réécoute hein, sur notre site internet le www.rrb.nc. Bon après-midi, bon dimanche sur Radio Rythme Bleu. Je vous retrouve avec grand plaisir à 13h pour un nouveau point sur l'actualité.